Comment les sports que nous pratiquons et notre quotidien nous amènent petit à petit à développer des connaissances de plus en plus précises, notamment en nutrition. Exemple avec Bart, le créateur du podcast Extraterrien. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Bart, le créateur et animateur du podcast Extraterrien que vous écoutez peut-être. Vous l'avez constaté, nos pratiques sportives et notre envie de progresser et performer nous amènent à développer des compétences de plus en plus pointues. Et vous le savez d'autant plus en écoutant ce podcast parce que c'est exactement ce que l'on veut vous amener à développer, vous aider à développer ces fameuses compétences. Et aujourd'hui, nous avons invité Bart pour parler de son parcours sportif et de comment il a évolué dans ses différents sports et l'impact que ça a eu dans sa vie et dans sa nutrition. Bart est par exemple passé du tennis au rugby, on peut pas dire que ce sont des sports qui ont tout à fait les mêmes physiques, puis à la course, au crossfit, à la musculation. Des évolutions qui ont demandé de remanier son corps, prendre de la masse, qui ont demandé de se pencher sur sa nutrition sportive, les compléments alimentaires et suivre précisément ce qu'il faisait. Vous allez voir comment. C'est justement ce parcours qui nous intéressait, celui du sportif qui s'intéresse petit à petit à sa nutrition, qui en comprend l'importance et ce qui lui permet justement d'atteindre ses objectifs. Bart avait d'ailleurs transformé ses connaissances en contenu avec une chaîne YouTube dans laquelle il faisait des tests de nombreux produits et nous explique un peu comment ça se passait. Après, vous allez aussi découvrir que Bart est venu à la micronutrition pour compenser la consommation de produits pas du tout recommandables, notamment des drogues. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Bart. Allez, c'est parti. Salut Bart.
Salut Bertrand, comment vas-tu?
Eh bien écoute, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Tiens, pour une fois, je te vois, alors on le dit hein, dans les coulisses, je te vois en vidéo. D'habitude, j'étais dans mes oreilles en fait. Comment tu vas alors?
Mais écoute, ça va très bien, ça va très bien. Là, je rentre d'un gros événement de perche où j'ai vu le record du monde ce week-end de Monsieur Mondo Duplantis. Donc c'était un gros week-end de sport avec beaucoup d'interviews, beaucoup de tournages. Donc je vais très bien. Mais aujourd'hui, c'est plutôt en tant que Bart que je viens plutôt qu'en tant qu'extraterrien, donc je vais pas te bassiner avec mes enregistrements.
Non, mais tu me bassines pas parce qu'en plus t'étais à la maison, t'étais chez moi, t'étais à 9 km 300 de chez moi quand j'y vais en courant, ou tu vois à peu près quand je prends les raccourcis, donc très très bien. Et j'ai vu aussi ce record du monde, mais moi j'étais à la maison, j'étais resté à la maison, on avait fait une petite soirée en famille, puis à la fin j'ai dit tiens, je vais regarder ce record. Quand même hallucinant hein, de voir ce record, comment il monte là-haut.
Ouais, complètement. Et puis je pense que ce monsieur, il a vraiment un talent surnaturel parce que là, c'était la première fois que je voyais de la perche d'aussi près pendant aussi longtemps. Donc tu vois, j'ai vu entre les femmes et les hommes, j'ai dû voir quasiment une centaine de sauts. Et tu vois que ce jeune Armand, il a vraiment un talent. Tu vois vraiment le génie, c'est la rapidité avec laquelle il monte et la fluidité avec laquelle ça se fait, là où tous les autres passent un peu en force, passent un peu avec un manque de grâce, tu vois, un peu moins de grâce. Lui, c'est tout est parfait, tout est fluide, tout est limpide. Et puis en fait, bon, il met 6 mètres 22, mais on sait très bien qu'il met 15 cm en plus sur la barre parce qu'à chaque fois qu'il touche un world record, il touche 100 000 $, mais qu'il pourrait là passer 15 cm d'un coup, je pense, quasiment.
Ouais, et en tout cas, bon, c'était organisé en plus à la maison par Renaud Lavillani que tu as dans ton podcast.
Ouais, exactement. Normalement, ça devrait sortir dans quelques jours, donc je suis très content.
Bah écoute, c'est cool. Alors, tiens, d'ailleurs, est-ce que Mondo, t'imaginerais l'avoir un jour dans ton podcast?
Mais écoute, je vais travailler ça pour l'année prochaine à l'événement à Wallster Perche, justement, de Clermont, à l'événement de Renaud. Mais ouais, ce serait complètement possible. J'espère bien pouvoir faire des interviews en anglais un jour ou l'autre, ouais. Bien sûr, et c'est quelque chose que je prévois. Et en plus, c'est des garçons, je pense, hyper intéressants, justement, de voir un petit peu cette différence de culture, parce que en France, on voit beaucoup, tu vois, le syndrome franco-français de la peur de la gagne, tu vois, ou le poids qu'on a, que les athlètes ont en France, c'est-à-dire qu'ils doivent être absolument parfaits, ils doivent être humbles, ils ont pas le droit de crier sur tous les toits, qui sont morts de faim de la victoire. Et je pense que, tu vois, dans d'autres cultures, justement, dans les cultures nordique, ça se dit plus facilement, et du coup je pense qu'il y a une autre psychologie, donc je serais très friand de pouvoir interviewer un garçon comme Mondo, ouais, bien sûr.
Oui, et puis en plus, je ne sais pas à quel point ils te le disent, mais ils sont souvent critiqués, certains sportifs, quand ils annoncent qu'ils veulent gagner, donc il y a l'esprit un peu, on les trouve arrogants, etc. Et on parle de Lavillani, ouais. Mais Lavillani, le nombre de critiques qu'il prend, alors que ça faisait 10 ans, plus de 10 ans qu'il est au plus haut mondial, enfin, son record du monde à 9 ans quand même, hein, je crois, c'était... Ouais. quand il a battu le record de Bobka, c'était il y a 9 ans. Donc, ça fait des années qu'il est là et il a pratiquement tout gagné et il se prend des critiques, c'est incroyable. Et il le gère comment? Il le vit comment, ça? Tu sais, quand tu les as toi au micro, il t'en parle de ça?
Ouais, très souvent. C'est un sujet qui revient très, très souvent dans la bouche des sportifs. Et si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que tu vois ceux qui sont complètement passés outre. Je dirais qu'il y a trois catégories. Il y a ceux qui en souffrent toujours et tu le ressens. Et d'ailleurs, ça se ressent un petit peu dans les records parce que c'est des gens qui arrivent à gagner peut-être une fois, deux fois, mais qu'on tout pour gagner dans la durée et qui n'y arrivent pas. Je vais pas citer de nom, tu vois, mais ça, je trouve que ça se ressent. Il y a ceux qui sont passés outre, tu vois. Et je pense que ceux-là, ce sont généralement les plus brillants, tu vois, et qui ont justement quelque chose en eux où ils sont parfaitement alignés à justement être capables de dire qu'ils ont envie de gagner. Là, je pense à un garçon comme Florent Manodou, tu vois, aujourd'hui. Il sait que ça plaît pas quand il dit qu'il a envie de gagner, mais en fait, il s'en moque. Et puis ça lui glisse dessus. Il est qui il est aligné. Et puis t'as ceux qui naturellement se moquent du regard des autres, tu vois. Et là, c'est une autre catégorie, tu vois. C'est presque être un peu sociopathe sur les bords. C'est ne pas être du tout touché par ton environnement. Et ceux-là, effectivement, c'est une classe à part, tu vois. C'est les Djokovic, tu vois. C'est ceux qui en fait sont prêts à aller casser le mur avec le front si jamais s'il le faut, parce qu'ils n'ont pas peur de se faire mal et ils continuent. Donc c'est un sujet qui revient très souvent et je pense que ça fait vraiment partie de, en tout cas en France, d'un des critères de la réussite, c'est effectivement être capable de passer, d'assumer cette envie et d'être complètement aligné avec et d'incarner le champion, voilà, aligné avec cette envie.
Et est-ce qu'ils te parlent de nutrition, les champions, quand tu les reçois? Après, on parlera d'autres choses, on parlera de ton propre parcours, mais c'est vrai que la nutrition, enfin, on dit toujours que ça fait partie d'une base importante, mais des fois, quand on croise des sportifs, quand on voit la vie des sportifs, en fait, il y a ce qui se dit, puis il y a la réalité. Ils t'en parlent un petit peu de ça?
Ouais, j'en parle beaucoup et tu sais que souvent ils évitent un peu le sujet parce que moi j'aime bien justement aller interviewer des athlètes d'endurance. Ils sont loin d'être parfaits, très très loin d'être parfaits. Et souvent, il y a un comportement un petit peu bipolaire avec ça, je trouve. C'est que soit en fait c'est OK, de toute façon, je dépense plusieurs milliers de calories par jour, donc je mange ce que je veux et j'ai pas envie que ça soit une prise de tête parce que j'ai déjà assez de charge mentale. Et du coup là, tu vois du McDo, tu vois du fast food et tu vois des raclettes et puis voilà. Alors bien sûr, c'est pas dans l'abus, c'est pas tous les jours non plus, tu vois. Et puis tu as ceux qui sont complètement à l'inverse, qui sont psychorigides, tu vois, par rapport à ça. Et ceux justement qui vont avoir tendance à être psychorigides, des fois tu peux culpabiliser un peu en te comparant à eux, parce que généralement c'est des gens qui vont devenir quasiment vegan, qui vont quasiment supprimer le lactose et le gluten de leur alimentation, et tu te dis waouh, qu'est-ce qu'il leur reste finalement à ces champions à manger, mais finalement ils sont très heureux, c'est juste un rythme à prendre, hein. Mais c'est un sujet qui revient souvent. Je vais pas toujours, tu vois, creuser plus que ça. Mais tiens, ça sera mon challenge, tiens, pour les prochains épisodes, comme ça, ça pourra permettre aux gens qui sont intéressés par la nutrition, qui nous écoutent maintenant, d'aller découvrir mon podcast avec un angle. J'irai poser ces questions-là pour mes prochaines interviews, tu vois.
Alors c'est drôle parce que la description de psychorigide et compagnie, on aurait pu dire tiens, on pourrait penser à Djokovic ou des gens comme ça et tout, qui sont dans le contrôle en plus. Non mais Djokovic, il faut le dire parce que là il vient de battre le record du nombre de semaines numéro 1 mondial. Le jour où on enregistre, hein, donc c'est le 27 février. Là il est en train d'exploser tous les records, etc. Mais il est souvent critiqué pour le côté arrogant. Il a tout un, on dira il n'aura jamais la stature de Federer et compagnie. Mais quand on regarde le contrôle de son corps qu'il peut avoir. Enfin, moi, je serais toi, je ferais tout pour l'avoir dans mon podcast, tu vois. Enfin, moi, dans ma thématique, je me dis, s'il vient me parler de nutrition, je me dis, ça va me faire peur à tout le monde. Mais toi, sur le parti mental, etc., je me dis, punaise, il doit y avoir un truc là-dedans, dingue.
Ben, je me pose toujours la question, tu vois, de savoir si ces grosses machines de guerre, là, tu vois, ces mecs un peu surnaturels, si, au contraire, ouais, ils ont justement ce côté sociopathe, psychorigide, et qu'en fait, finalement, sur un podcast d'une heure et demie, pareil, tout est travaillé, comme tu le disais, ça devient des machines, et ils te répètent quelque chose d'un peu stérile, d'un peu froid, ou au contraire, est-ce qu'ils arrivent à rentrer dans le show, tu vois, et à devenir, et à te faire une interview hors du commun, tu vois. Donc ça, c'est des petits défis que je vais me lancer. Après, moi, j'ai ma petite idée. Hein. Souvent, ce sont des mecs qui sont tellement brillants, qui sont, même en te répétant les mêmes histoires qu'ils racontent depuis 15 ans, ils arrivent à être intéressants, passionnants et captivants, quoi. Donc, ouais, non, moi, je vais chercher justement ces personnalités un petit peu hors normes. Tu vois, là, je viens de publier une interview avec Florent Manaudou, quelqu'un qui a beaucoup de préjugés sur lui, tu vois, qui a énormément eu de lumière, beaucoup de comparaisons avec sa sœur, beaucoup de sportifs qui pensent le connaître parce que ils ont une image, tu vois, médiatique justement de ce golden boy faux humble, tu vois, un peu arrogant par moment, tu vois. Et en fait, ouais, sur une heure et demie d'interview, tu sens que voilà, c'est quelqu'un qui est aussi brillant intellectuellement et qui est capable de te parler de tout, de rien, que sa vraie passion à côté de la natation, c'est l'astronomie, que le type il a un télescope qui coûte plus de 10 000 euros chez lui et qu'il est pas, il est capable de passer 2 heures à observer les étoiles et à te raconter, tu vois, l'histoire de toutes les constellations. Donc ouais, moi j'adore aller voir, tu vois, c'est plus généralement, plus ils ont eu un palmarès impressionnant, plus ils sont aussi brillants et d'un côté, tu vois, intellectuellement, enfin, ils ont un intellect aussi très développé, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si t'as eu François Pervis, non, on l'avait eu dans le podcast il y a quelques temps. Alors lui, sur le contrôle de l'alimentation, sur des trucs, il y a des trucs fascinants dans ce qu'il fait. Mais aussi, en fait, il a tout le côté ingénieur, penseur, tout, quand il te parle de bambou, de choses comme ça. Tu vois que son monde, en fait, il est vraiment infini. Il y a une espèce de réflexion qui est très large. Mais bon. Alors, on va partir sur autre chose parce qu'on n'est pas là que pour parler de ça. Moi, c'était ma petite curiosité. Je suis curieux parce que comme j'écoute ton podcast et qu'il y a des gens que j'ai découvert en fait par le biais du podcast, tu vois, un petit peu ce qu'ils racontent, etc. Moi, je me dis, pour une fois que j'étais en face, j'en profite. Mais quand même, il y a un truc qui est... On est là pour parler un petit peu de toi en tant que sportif parce que sur une thématique qui est intéressante, en fait, c'est sur le parcours. C'est parce que toi, tu vas rencontrer des sportifs, mais t'es sportif aussi. Enfin, t'as toujours fait du sport?
J'ai eu des petits creux. D'ailleurs, et si on parle nutrition, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser je me suis intéressé à la micronutrition pour un sujet qui est complètement outre et qui va sûrement choquer un peu tes auditeurs. On pourra m'en parler un peu tout à l'heure. Je fais un peu de teasing, je me permets. Mais ouais, j'ai toujours fait du sport. Je suis tombé dedans très très jeune. J'étais inscrit à la baby gym, tu vois. Dès 4 ans, j'étais mis sur un tatami de judo parce que mon père avait fait plusieurs fois les championnats de France junior et tu vois, a fait aussi beaucoup de judo. Ma mère était cycliste, elle a fait pas mal de courses, tu vois, départementales, régionales. Donc c'était inconcevable que je grandisse sans sport. J'en ai fait énormément, j'ai fait notamment sport études tennis jusqu'à mes 16 ans. Et après j'ai fait 5-6 ans de rugby et après une petite pause et je me suis ça a été des années assez sombres de ma vie, on va dire, et je m'y suis remis après par la voie de tous les sports d'endurance, course à pied, triathlon, trail, et à côté en faisant aussi pas mal de musculation et de crossfit. Donc moi j'ai toujours eu, en plus, enfin en tout cas récemment, j'ai cette double casquette où je m'intéresse beaucoup au sport de force, parce que vraiment ça me passionne, l'haltérophilie et tout, et de comprendre comment ils arrivent à soulever des poids aussi forts. Et en même temps, j'adore. Pour moi, ça sert à rien de courir. De soulever 200 kilos si t'es pas capable de courir un marathon à côté, quoi. Donc je cherche toujours un peu à optimiser sur tous les curseurs, et je suis un profond fan de décathlon aussi, parce que justement c'est des sports très très complets et qui nécessitent de bosser toutes les filières, quoi.
Et je me rappelle que tu avais fait un épisode chez Rudy Koya. Il t'avait parlé de ta muscu, etc. Vous avez parlé de ça un petit peu, etc. J'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup de muscu, non?
Ouais, j'ai eu ma période. Mais surtout au moment où je suis allé le voir. À ce moment-là, justement, j'étais passionné. J'en faisais beaucoup. Et aussi, parce que ces deux dernières années, en fait, j'ai eu des gros soucis de rein, tu vois. Des calculs rénaux à répétition. Et si tu veux, ça se déclenchait. Enfin, j'ai eu plusieurs fois des douleurs qui se déclenchaient. Notamment sur des efforts prolongés de plus d'une heure. Donc si tu veux, la course à pied, je l'ai un peu mis de côté, triathlon, j'ai un peu mis de côté, et ce qui me procurait des sensations, du coup, c'était la musculation, le crossfit, parce que c'était des efforts beaucoup plus courts, quoi.
Il y a un truc quand même, tu passes du tennis au rugby, tu m'as dit. Bon,
ouais,
tu jouais quel poste au rugby?
J'ai commencé à l'aile parce que j'étais nul techniquement et j'ai terminé demi de mêlée.
Ouais, ça va. Parce que je me disais, un tennisman qui se retrouve sur un terrain de rugby, on n'est quand même pas du tout dans les mêmes types de sport, etc. Enfin, entre du sport où tu es chacun de côté du filet, où, puis d'un coup, là où ça fracasse, en fait, c'est quand même deux mondes totalement différents.
Ouais, tout à fait. Bah écoute, je pense que c'était un choix de cœur, c'était aussi un choix un peu de hasard. Des fois, tu as des opportunités dans la vie et t'essayes. Le tennis, moi, j'ai vraiment quitté le tennis vraiment avec un burn-out, tu vois, de ce sport. J'en pouvais plus. C'est un sport de duel. Mmh. C'est un sport d'affrontement. Peu importe si tu joues bien ou mal, ce qui compte, c'est de battre l'autre. Faut jamais l'oublier. Donc c'est un sport extrêmement psychologique parce que tu passes 2 heures en face à face avec quelqu'un à essayer de te mettre des coups dans lequel y a certaines règles, mais j'ai envie de te dire aussi tout est permis. Et si tu peux faire dégoupiller psychologiquement quelqu'un, tu dois le faire si c'est le seul moyen de gagner. Et souvent certains joueurs de tennis ont ça, tu vois, ils ont ça en eux, ils arrivent à faire exploser certains joueurs. Je pense, tu vois, à des Fabrice Santoro. Moi, c'est un joueur qui m'a énormément inspiré parce que quand je jouais, j'étais un défenseur et j'étais le plus petit, moi, à l'école. Et du coup, c'était Fabrice Santoro. Voilà, c'était un type, il faisait 1m70, je pense. Il ramait du fond du court. Il était un peu gringalet, un peu fin, extrêmement rapide, tu vois, extrêmement véloce sur le terrain. Mais il n'était pas puissant du tout. Et son grand secret, ouais, c'est qu'il faisait péter des plombs à certains joueurs, quoi. Et notamment, c'était la bête noire de Marat Safin, qui a été numéro 1 mondial et qui a gagné plusieurs grands chelems. Donc, si tu veux, j'avais ce truc de dans ce sport où le duel, je le supportais plus. Et en fait, quand je suis allé chercher un autre sport, j'avais besoin d'un sport collectif, d'un sport dans lequel les camarades peuvent me soutenir et dans lequel en fait l'ambiance et le plaisir d'être ensemble surpassaient justement cette individualité que tu peux avoir dans le tennis. Et je l'ai trouvé au rugby, quoi. Je l'ai trouvé avec des gars qui te, quand tu tombes dans la boue et que tu t'es pris un gros plaquage, tes camarades, ils viennent vers toi, ils te tendent la main, ils te relèvent. Après le match, écoute, tu vas te boire des bières. Tu respectes l'arbitre énormément, tu respectes la hiérarchie entre les joueurs. Et c'est plein de règles, tu vois. C'était un peu la nouveauté aussi qui m'a plu. Donc j'ai commencé à l'aile avec la peur de me blesser, la peur de plaquer. Le garçon un peu chétif du tennis. Et puis en 6 ans, je me suis musclé, j'ai soulevé de la fonte, j'ai commencé à prendre effectivement des protéines laitières pour gagner un petit peu de temps et que ça aille un petit peu plus vite. Et puis à la fin, j'avais à peu près le gabarit que j'ai maintenant et du coup des bonnes épaules, le goût de l'ovalie et j'ai plus du tout peur de mettre sa tête dans la mêlée et de venir mettre l'épaule en avant, quoi. Donc c'était aussi, tu vois, je pense aller chercher un sport comme ça, c'est aussi aller chercher soi-même. Tu vois, le rugby, c'est soit tu vas à 100%, soit tu vas pas. Si t'es à 95% dans ta tête, tu te fais défoncer sur un terrain. Enfin, il faut être honnête. Donc c'est un sport où tu vas chercher au fond de tes tripes, comme beaucoup de sports. Mais tu vois, moi j'avais peut-être besoin de me prouver certaines choses et je me suis régalé franchement durant toutes ces années. Alors après maintenant j'ai le dos en vrac et je pourrais plus rechausser les crampons, mais je regrette rien, quoi. Je regrette rien.
C'était quelle la troisième mi-temps? Elle est mieux au rugby ou elle est mieux au tennis?
La question se pose même pas. Elle est horrible au tennis. Elle est horrible parce que tu rejoues le lendemain. Ouais. Quand tu gagnes, tu rejoues le lendemain. Donc
Non, mais j'ai joué plusieurs années au tennis, mais comme moi, je gagnais pas beaucoup les matchs. En fait, je me suis jamais vraiment accroché. Non. Alors, pour l'anecdote, si j'ai joué plusieurs années, mais en fait, le côté psychologique que tu décris, moi, il me gonflait dans le tennis, tu sais. Et j'étais pas assez vicieux et j'étais trop mec qui frappe dans toutes les balles tant que ça passe. Donc voilà. Mais donc moi, le côté, tu vois, progression, etc., je l'ai pas eu. J'ai joué au foot, j'ai joué au rugby, j'ai fait plein de trucs, puis après j'ai arrêté. Mais c'est vrai que le côté festif du rugby est réputé. Côté du tennis, bon, un petit peu moins, enfin, en tout cas. Et il y a quand même un autre truc, tu vois, tu as dit, tu as pris des protéines, parce que je me dis, tu as dû prendre quand même une sacrée masse entre le joueur de tennis et le gars qui joue au rugby parce qu'il faut plaquer, il faut de la puissance, il faut de la force, etc. Enfin, t'as dû en prendre un paquet, des petits trucs, là, des petites, enfin, j'ai l'air des cachetons de protéines, mais non, parce que c'est de la poudre. Mais tu, t'en as pris, t'as fait comment d'ailleurs? Alors ça, c'est intéressant parce que tu changes de sport, tu te dis, faut que je me muscle, t'as un entraîneur qui te donne des conseils, tu vas chercher ça, je sais pas où, t'as procédé comment?
C'est vrai que quand t'es sur un sport collectif et puis notamment que j'ai commencé le rugby en universitaire avec l'école d'ingé, donc il y avait certains mecs qui jouaient déjà depuis 10 ans, tu vois, avec leur club dans leur ville natale, tu vois. Donc t'en as certains qui ont déjà l'expérience, tu vois. Moi j'étais chétif, tu vois, j'ai commencé le rugby à 18-19 ans, j'avais toujours pas terminé ma croissance, j'ai terminé à 22 ans. Et effectivement, déjà t'as le coach et tes copains qui te disent: déjà, il faut que tu manges, mon coco, parce que tu passais 3 heures par jour sur le court de tennis. Là, certes, tu vas aller jouer nettement moins au rugby. On va te faire quelques séances de muscu, mais normalement, vu que normalement ta dépense calorique, elle est beaucoup plus faible. Si tu manges plus, enfin naturellement, tu vas prendre du muscle, quoi. Enfin, si tu t'entraînes. Donc, si tu veux, au début, c'est extrêmement facile. Ça commence, tu prends très rapidement. C'est plutôt à la fin, justement, quand tu commences à atteindre ces plateaux, que là, il faut commencer à s'informer un peu. J'avais des bonnes bases, quelques copains qui sont, tu vois, soit coach sportif, soit préparateur physique aussi, et donc qui te font grosso modo, tu vois, quelques macros, et qui disent: ok, bah tu pèses 70 kilos, si t'as envie de monter à 75 puis à 80, il te faut ton apport calorique journalier, donc tu passes une petite heure, tu fais des calculs, tu fais ça sans trop te prendre la tête, mais au moins t'as un horizon, tu vois, t'as des fourchettes de combien de féculents tu dois prendre, combien de protéines tu dois prendre, et puis après t'y vas, et puis tu vois que c'est quand même assez simple, tu vois, quand tu fais du sport et que t'as une alimentation à peu près saine, enfin tu vois, c'est pas non plus sorcier, quoi. Après, quand tu rentres dans la suroptimisation, enfin dans la très grosse optimisation, à savoir quand tu fais des sports d'ultra, de l'endurance, ou que tu vas commencer à t'entraîner plusieurs fois par jour, là c'est une autre paire de manches. Mais tu vois, pour un rugbyman amateur qui va jouer 3-4 fois par semaine, ça va, quoi.
Ouais, surtout que quand tu dois prendre de la masse, finalement, à la limite, Tu peux manger plus, quoi. T'es pas dans le je dois sculpter, je dois. Parce que tu m'aurais dit je dois faire de la lutte et rentrer dans une catégorie moins de 60 kilos alors que t'en fais 70. Bien là, sûr. Je t'aurais dit ouf, galère. T'as pas tenté de faire des sports de lutte, des trucs comme ça, là, justement des...
J'ai commencé avec le judo, mais ouais. Jeune. Et c'est un de mes regrets sportivement de pas avoir poussé plus loin, parce que je m'en suis rendu compte au rugby, justement. C'est que j'ai retrouvé ça, quoi. La capacité à plaquer un mec. J'avais pas peur de ça. Et je pense que j'étais pas mal. Et tu vois, avec mes copains rugbyman, on se faisait, notamment quand on partait en vacances sur la plage, la nuit un peu éméchée, on traçait un énorme cercle, tu vois, dans le sable, et avec le jeu de devoir sortir l'autre gars du cercle. Et ben, je sortais des mecs qui faisaient 15, 20 kilos de plus que moi, quoi. Donc, je pense que j'aurais dû effectivement continuer un peu plus le judo et tester un peu la lutte. Mais bon, c'est ce qui est fait, quoi.
Alors, tu sais, je vais te dire un truc. À une époque, l'ASM Clermont-Auvergne, puisque tu étais à Clermont, je sais pas si tu as vu le match, il y avait un match et tout hier, ils avaient embauché l'entraîneur de l'équipe de lutte d'à côté pour apprendre aux joueurs justement à mieux plaquer, à se retourner, etc. Ils retournaient les mecs, mais comme des crêpes. Mais c'est un sport, le rugby, tu vois, où franchement, ils font, et on a eu un rugbyman pro dans le podcast, on en avait parlé, il y a des heures de muscu, etc., tu vois, au niveau. Moi, j'avais été surpris par un truc, je sais pas si toi tu l'as vu, mais en tout cas, moi j'ai visité les vestiaires de l'ASM à l'époque, il y avait des gros bidons de créatine, il y avait des trucs, des compléments dans tous les sens, etc., tu sais, parce que même des joueurs pro qui sont baraques, etc., qui ont un besoin, tu vois, de continuer à développer la musculature, un joueur de l'ASM qui est emblématique, qui est Aurélien Rougerie, entre le début et la fin de sa carrière, il prend, mais musculairement, tu vois, mais vraiment beaucoup de volume. C'est vraiment impressionnant. C'est un sport. En plus, ça fait des bruits, ils se mettent ces caramels et tout. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est pour ça qu'à côté, tu vois, j'avais l'image du bar. J'ai pas l'image du bar de tennisman ni du bar de rugbyman, mais tu sais, j'ai du mal à voir la transformation que t'as entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, c'est que enfin, quand tu regardes un petit peu, t'as dû vraiment changer de morphologie. Il y a et même tes repas, ouais, t'as tout changé, quoi. Ton entraînement, tout a changé.
Ouais, ouais, complètement. Il faudrait que je retrouve des photos, mais j'ai des photos de moi à 15, 16 ans. Je suis vraiment frêle, tu vois. Et à 23, bah effectivement j'ai des grosses épaules, des vrais pectoraux, des dorsaux bien bien travaillés. Après ça se fait progressivement. C'est vrai que les joueurs de rugby, il y a eu un moment, tu vois, au début des années 2000 où ça s'est énormément professionnalisé et on disait aux juniors, tu vois, qu'il fallait qu'ils prennent une vingtaine de kilos en l'espace de une ou deux saisons. Et là, je pense qu'il y a un vrai challenge. Moi, j'avais pas d'objectif de poids. Ça se fait naturellement. C'est aussi du plaisir de découvrir un nouveau sport et de découvrir la prise de masse, tu vois, comme on peut l'appeler. Donc, je vois exactement ce dont tu parles et chez les rugbymen pro. Moi, ça s'est fait de manière très naturelle, tu vois. C'est pas non plus réfléchi avec une ambition et des objectifs chiffrés derrière, quoi.
Ouais. Bon, c'était éviter de se faire écraser par le mec en face, quoi.
Pardon, excuse-moi.
C'était pour éviter de se faire écraser par le mec en face qui arrive à pleine vitesse. Il faut quand même lui résister, donc faut tenir la baraque, quoi.
Ouais, exactement. Et puis tu vois aussi tous tes autres copains qui sont super musclés sous la douche, tu vois. Et tu te dis, faut que c'est un peu moins ridicule. Et puis ouais, tu te mets avant chaque entraînement, tu te mets à faire des tractions, des pompes, beaucoup d'abdos. Donc tu prends aussi naturellement, quoi. Et tu prends plaisir. Parce que tu vois aussi que en prenant de la masse musculaire, en prenant de la puissance, bah tu dégoupilles le mec en face. Et ça te fait plaisir. Tu vois, au-delà de toi de faire mal, tu prends du plaisir à faire des meilleurs plaquages, en te faisant moins mal aussi, parce que tu te fais quand même un peu mal en plaquant aussi les autres. Donc c'est un tout, quoi. Tu prends du plaisir à prendre de la masse, tu vois.
Et à ce moment-là, parce que bon, on avait prévu de parler des compléments alimentaires, des trucs comme ça, parce que tu avais fait une chaîne, tu avais plein de trucs là-dessus, ouais. Mais tu prenais quoi? Tu disais c'est vraiment l'alimentation, ou alors il faut que quand même j'accélère un peu, je prenne des protéines, que je prenne autre chose, etc. C'est quoi ta démarche de progression, tu vois, te dire, pour quand même que ça prenne pas trop de temps, tu vois?
Ouais, c'était vraiment les macros. C'était vraiment protéines et protéines laitières. Chose que je regrette beaucoup, tu vois, d'avoir fait pour ma santé. Justement, je te disais tout à l'heure que j'ai des problèmes de reins et c'est pas officiellement lié, tu vois. Et puis, il y a aucun médecin qui te dira que c'est directement lié. Mais moi, c'était des calculs d'oxalate de calcium. Donc, dans oxalate de calcium, il y a calcium. Dans le lait, qu'est-ce qu'il y a? Du calcium. Donc, tu vois, c'est quand même, moi en tout cas, je pense avoir fait une petite liaison par rapport à ça. Puis il y a quelques études qui se penchent un peu là-dessus et qui montrent que trop de calcium pour les reins, forcément ça déclenche des calculs. Ta question de comment tu fais, comment je me penche par rapport à ça, ouais, c'était essentiellement de la protéine laitière. Après j'ai testé un peu les BCAA, j'ai pris un peu de la créatinine et de la L-carnitine qui sont des excitants, mais je voulais pas me surcharger comme une bête, donc tu vois, j'ai dû acheter un flacon, j'ai dû en prendre 5 ou 6 fois et puis après j'ai abandonné. Les BCAA, tu sens un petit, enfin je sais pas si c'est un effet placebo, mais il y a plusieurs mecs dans les salles de musculation qui te disent que la première fois, que les premières fois avant un entraînement, prendre un peu de BCAA, ça te met un coup de boost, ce qui est un peu étonnant parce que c'est des acides aminés, donc en gros, si tu veux, ce n'est ni plus ni moins que des protéines décomposées, quoi. Ce qui est pas censé t'apporter de l'énergie ou pas censé t'exciter, donc ce qui est assez surprenant, mais c'est vrai que moi aussi j'ai ressenti un petit peu ça, un gain de nervosité, un gain un peu de puissance. Alors c'est uniquement, tu sais, les 2-3 premières fois où tu fais ça. Voilà, mais c'est à peu près tout. Et après, avec l'âge, plus tard, mais je pense qu'on pourra en reparler, aujourd'hui, je vais plutôt aller chercher de la micronutrition, tu vois, sur justement des compléments plutôt multivitaminés, parce que je pense qu'on est aujourd'hui, on est dans une ère où les aliments, même bio, sont de moins en moins minéralisés et vitaminés. Donc c'est important je pense que c'est important de se complémenter. Je prends un peu d'oméga 3 aussi, justement pour les les tendons, les ligaments qui peuvent vieillir un peu. Et puis c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal, quoi.
Et tu parles comment?
Et je pense que je vais prendre du collagène. Je pense que je vais prendre du collagène aussi prochainement
Mais
pour
tu
le
parles.
vieillissement de la peau et des articulations.
Tu parles comme un vieux, t'as quel âge?
J'ai 32 ans. Mais tu sais, quand tu fais du sport depuis. Ouais, mine de rien, quand tu fais du sport depuis 3 ans, tu te dis, ouais, j'ai 29 ans de sport dans la tronche.
Ouais.
Donc,
Non, mais c'est drôle parce
c'est
que
pas du temps, l'espoir.
moi, c'est réflexion que j'ai à 46 ans. Alors, moi, j'ai testé le collagène. Je ne sais pas si c'est ce qui a été efficace, mais en tout cas, grosso modo, j'en suis pas sorti en étant en moins bonne santé. Et tu vois, mais je ne sais pas si c'est que ça qui a été bénéfique. Je ne sais pas si toi, tu étais capable de te dire, tiens, quand je prenais ça, je me sentais mieux. Quand je prenais ça, je me sentais mieux. Quand j'ai fait tel ou tel truc, ça allait mieux, etc. Tu vois, enfin, de dire, parce
Ouais.
que tu parles des BCA, mais finalement. Tu te dis c'est un peu surprenant, mais est-ce qu'il y a vraiment une efficacité? C'est un vrai débat en plus sur les BCA, hein, parce que moi j'ai un coach qui jurait que par ça, et puis à côté j'ai un autre coach, il me dit ouais, arrête, ça sert à rien ton truc là. Donc toi, tu avais réussi à trouver un moyen de savoir comment ça marchait, est-ce que tu as essayé des différentes tactiques que tu as prises tout au long de ta carrière, parce qu'on a parlé du rugby, mais après on enchaînera sur ce que tu as fait ensuite, mais tu as trouvé des moyens toi de savoir si finalement ça servait à quelque chose que tu faisais?
J'ai traqué pendant très longtemps, tu vois, j'avais un fichier Excel dans lequel tous les jours je répondais à une vingtaine de questions et je notais des choses, tu vois, le temps de sommeil, est-ce que j'avais pris mes macros en protéines, tu vois, oui, non, tu vois, j'avais un objectif et je me le notais, et je notais mon niveau d'énergie, mon niveau de bonheur, mon niveau de productivité. Et c'est difficile en fait parce que plus c'est très très difficile de retrouver ça. Je pense que faut soit s'en tenir à des études scientifiques, tu vois, qui te disent ok bah ça marche, donc tu te poses pas de questions, tu le prends et tu le ressens. Soit effectivement faire complètement au ressenti. Mais en fait avec le nombre de paramètres qui jouent en jeu, tu vois, c'est extrêmement compliqué parce que imagine tu fais un mois de test sur des BCA, mais que ce mois-ci, je sais pas, t'as un chagrin amoureux avec ta compagne et qui tu te prends la tête amoureusement, tu vois. Bon, et ça te bouffe le chou-fleur et que du coup t'endors très mal. Et du coup, bah t'es crevé. Et du coup, est-ce que tu peux te dire les BCA sont efficaces ou pas? C'est extrêmement compliqué, tu vois. Et j'ai tout foutu dans des fichiers Excel pendant plus de 2 ans. Et bah effectivement, je suis content de tout traquer, tu vois.
Ouais.
J'avais mon petit plaisir, tiens, un peu ingénieur, data analyst qui prend du plaisir. Et la conclusion que j'en ai, c'est que le principal facteur de bonheur, d'énergie, quand même, à 80%, selon moi, c'est la qualité du sommeil, quoi. C'est ça, quoi, la base de la récup. Après, si tu fais n'importe quoi à côté, c'est sûr que ça se ressent, hein. Je pense que tu as des documentaires comme Super Size Me, te le montrent, tu vois, si tu manges n'importe comment. Mais si globalement, tu vois, tu fais les choses bien à 90% dans le sport, enfin, et dans le sport et la nutrition, il n'y a pas trop de. Tu vis bien. Après, moi, je suis pas un athlète de haut niveau. J'ai pas fait d'ultra distance. Je m'entraîne. Tu vois, aujourd'hui, je m'entraîne une fois par jour. Donc, effectivement, je cherche à être sérieux, mais je vais pas m'entraîner plusieurs fois par jour. Tu vois, je suis pas dans une dynamique de performance. Je suis dans une dynamique de plaisir et de progression, mais pas au-delà. Donc, pour te répondre, non, c'est hyper dur. De savoir, faut être honnête, tu vois. Et ceux qui disent l'inverse mentent. Après, tu peux avoir des révélations, tu vois. Moi, j'ai testé d'être végane pendant 9 mois exactement, et bah effectivement, je trouvais que j'avais plus d'énergie, tu vois. Par contre, je le payais dès que je faisais une séance d'entraînement de plus d'une heure et demie. Tu vois, c'était dur, c'était dur. J'avais l'impression de perdre, de plus avoir de jus après 1 heure et demie, 2 heures, quoi, tu vois.
Donc, le documentaire Netflix, c'est du pipeau alors?
C'est une bonne question. Écoute, allez, on va sauver la polémique, mais l'alté, enfin le strongman, déjà il est dopé dans le documentaire. Qu'on se le dise honnêtement. Ensuite, il y a des footballeurs américains, pareil. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Je les connais pas, mais. Il y a tellement d'autres choses à voir, tu vois. Enfin, en tout cas, sur le strongman, tu vois, il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, l'homme le plus fort du monde, nanan, il est vegan. Ouais, mon garçon, ouais. Enfin, en tout cas, il prend des stéroïdes aussi. Donc, comparons ce qui est comparable, tu vois. Regarde-toi, est-ce que tu prends des stéroïdes également? Non, je pense pas que c'est du pipeau. Je pense que chacun, tu vois, que je pense que tu as le vrai truc pour avoir fait une chaîne de nutrition. Et toi, effectivement, je serais curieux d'avoir ton avis sur la nutrition. C'est que tout le monde a un avis sur la nutrition. Que tu sois sportif, non sportif, tout le monde se permet de donner son avis et tout le monde a une vision sur la chose. Et tu vois, moi j'ai fait des vidéos sur YouTube, tu vois, qu'on fait beaucoup de vues avec qui générait un peu la polémique, tu vois, et j'ai parlé un peu du régime vegan, du régime paléo, du régime cétogène, j'ai parlé de plein du régime sans gluten et tout, et j'essayais de le faire d'un point de vue objectif et d'essayer de proposer une façon aux gens de commencer si jamais ils s'y intéressaient, tu vois. Moi, je m'adressais aux débutants. Et tu te retrouves toujours avec des gens qui t'explosent dans les commentaires parce que tout le monde se permet de dire quelque chose et tout le monde a son avis. Et je pense que moi, ce que j'en ressors de tout ça, c'est que dans la nutrition, chacun a sa vision chacun est libre de faire ses essais et chacun est libre de voir comment tu le ressens et comment tu vis le truc. Et il n'y a pas de règle, je pense, valable pour tout le monde. Après, il ressort effectivement des grandes tendances, tu vois, sur certains régimes, sur certaines façons de faire. Et effectivement, je pense que le régime cétogène est hyper intéressant pour beaucoup de gens et qu'on devrait s'y intéresser plus. Je pense que le régime végétalien aussi pour des dynamiques, tu vois, environnementales, devrait beaucoup plus nous intéresser au jour le jour, mais il y a pas de règle absolue. Donc est-ce que le régime le documentaire Netflix c'est de la merde? Ben je vais te répondre une seule chose, c'est le biais du survivant. Tu vois, si je peux faire exactement le même documentaire Netflix sur les 5 meilleurs athlètes avec le régime cétogène, les 5 meilleurs athlètes avec le régime sans gluten, et t'auras autant de médailles olympiques, t'auras autant de records, seulement, voilà, ce sont des athlètes qui ont trouvé le régime qu'il leur fallait. Point, c'est tout. Et si aujourd'hui les auditeurs qui nous écoutent, ils sentent pas bien, tu vois, et ils ont mal au ventre de temps en temps, ou ils sentent qu'ils ont pas 100% de leur énergie, et ben essayez des régimes, voilà. Essayez et vous trouverez peut-être quelque chose qui vous convient. Mais je pense que ouais, les gourous, c'est un peu moi ça me gave. Tu vois.
Bon, après c'est vrai que bon, ce documentaire, j'ai oublié le nom, mais bon, on va le retrouver, voilà. Je mettrai dans les notes.
Game changer,
voilà, merci. Il faut se rappeler quand même qu'il est produit par un investisseur dans la farine de pois, donc la protéine verte. Hein. Donc, il y a toujours une histoire qui est comme ça. Moi, je suis assez d'accord, tu sais, sur ce fait. En fait, tu te rends compte que tu croises plein de gens, ils ont des régimes différents. Mais quand ils savent ce qu'ils font, en fait, ils arrivent à grosso modo leurs résultats avec des questions de confort. Dans le podcast, franchement, on a eu tout. Hein. On a eu des végétariens, on a eu des gens qui mangent de la viande, des gens qui mangent. Moi, quand j'ai commencé à courir, on m'a dit « Oh là là, attention, arrête le fromage, le lait, etc. » et tout. Et j'ai eu je sais pas combien d'invités qui courent et qui ont leur dose de fromage, de lait, etc. tous les jours, qui n'ont pas la moindre tendinite ou quoi que ce soit. Alors que moi, on me disait « Attention, il y a tendinite. » Donc, c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on t'a invité dans le podcast, parce que l'idée, c'était de voir comment un pratiquant qui s'intéresse en plus, alors qui a plein de sports et tout, qui a fait différents sports, finalement, comment toi, tu l'as vécu tout au long de ton cheminement. Parce que pour ça qu'il m'intéressait à tes sortes de prise de poids. Mais après, maintenant, après le rugby, attends, t'as joué au rugby jusqu'à quel âge, à peu près?
Jusqu'à mes 24 ans, exactement. De mes 18 à mes 24. Après j'ai fait un an de pause, ouais. Et là je me suis intéressé à la micronutrition, j'ai monté une boîte et je vais être hyper transparent, je me suis intéressé à la micronutrition parce que j'ai pris pas mal de drogues, tu vois, des psychotropes, des excitants, des stimulants, alors pour être un peu plus précis, tu vois, cocaïne, ecstasy, MDMA, des champignons hallucinogènes, du ECB, du vraiment j'ai tout essayé, genre, ouais. Durant une année j'ai vraiment tout essayé, je suis hyper transparent, j'ai tout essayé. Et ben c'est à ce moment là que je commence à voir l'intérêt des nutriments, parce que un jour j'en ai marre des lendemains d'ecstasy, t'as une énorme dépression parce que en fait ton taux d'endorphine et de sérotonine explose, donc t'as l'impression de vivre un orgasme, tu vois, t'as l'impression de sauter en parachute pendant 3 à 4 heures d'affilée. Tu as l'impression de vraiment d'avoir un orgasme pendant 3 à 4 heures d'affilée ou d'avoir une sensation d'adrénaline très 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 forte. Et du coup, le lendemain, bah, tes capteurs en sérotonine, tes capteurs en endorphine, en dopamine, ils sont vides. Ils sont rincés. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une dépression. Les jours d'après, tu déprimes, vraiment, tu restes dans ton... Et la descente est extrêmement dure. Et du coup, je me suis intéressé, tiens, et je tapais dans Google, tiens, bah comment, un lendemain de prise de produits stupéfiants, te sentir moins mal. Et sache qu'il y a des forums entiers avec des types qui sont des consommateurs extrêmement réguliers, extrêmement avertis, et qui t'expliquent que bah, si tu prends du zinc, du magnésium et de la vitamine C en très grande quantité avant de t'endormir, avec une bonne quantité d'eau, et ben en fait le lendemain, tes capteurs ils sont moins déchargés pendant la nuit, et du coup le lendemain, t'as pas cet effet où t'es complètement vide, tu vois, et l'effet il se... au lieu de l'avoir le lendemain de manière extrêmement rude, eh ben tu vas l'avoir plutôt pendant une semaine, mais de façon beaucoup plus limitée, tu vois. Et je suis tombé dans ça, tu vois. Alors je te parle de cette période de ma vie, tu vois, ça a duré entre 9 et 12 mois, tu vois. Et puis après, le sport m'a resauvé la vie, tu vois. J'ai complètement arrêté, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais comme connerie? C'est n'importe quoi, ok, je me suis évadé psychologiquement, j'ai découvert des choses, je regrette pas du tout d'avoir fait ça, tu vois. Mais c'est une connerie, tu vois, de le faire à la dose à laquelle je l'ai fait, c'est vraiment débile. Mais j'étais content de découvrir. Et à ce moment-là, je me rends compte en fait du pouvoir de la micronutrition. Et c'est là aujourd'hui que bah, tu vois, depuis cette période-là, effectivement, je sais que je prends du zinc et du magnésium parce que je dors mieux. Tu vois, ça c'est un truc que j'ai gardé. Effectivement, que je traque et que ça m'aide dans les périodes de stress, peut-être à redescendre un petit peu. Donc ça, je l'ai gardé. Je me suis intéressé effectivement à la perte de minéralisation de l'alimentation et ça. Tu vois, les études qui montrent l'évolution ces 50, 60 dernières années, bah, te montrent qu'une pomme aujourd'hui, c'est pas du tout la même que dans les années 50. Et que ça, il faut clairement, ça rejaillit effectivement sur nous. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je suis tombé dedans. Et puis après, bah, je me mets à courir et je me mets à faire un peu de crossfit. Et effectivement, bah, en courant, tu vois que tu te déminéralises beaucoup. Donc les nutriments sont hyper importants. Donc je me mets à manger beaucoup de légumes et même à côté de ça effectivement à me complémenter. Voilà un petit peu pour l'avancée de la thématique quoi. Si tu voulais, je te laisse prendre ce dont t'as envie dans ce que je viens de dire.
Non, mais alors. Là, bien entendu, il y a toujours la question de se dire, mais attends, pourquoi il tombe ? C'est le stress de ta boîte qui t'a fait faire ça là, ou c'est ça n'a rien à voir ?
Ouais. Ouais, complètement. Ouais. J'ai un de mes employés qui a amené de la cocaïne ouais, dans ma boîte et c'est un énorme fléau. Il y avait un seul mec effectivement qui était un peu drogué. Au bout de 6 mois, la moitié de la boîte en prenait.
Ouais.
Tous les samedis.
Ah, disons. Ouais, c'est là que tu as pris la viralité en fait alors.
Exactement. Ça c'est clair. Là, ça prend de plein fouet. Mais c'est un fléau ce truc. Et aujourd'hui, tu vois, je suis à Paris et je peux te dire que si vous avez des enfants de 18 à 20 ans qui aiment bien les musiques électroniques, essayez de faire gaffe à eux. Prenez soin. Intéressez-vous. Mieux vaut, ça sert à rien de les interdire. Parce que de toute façon, aujourd'hui, tu vois, je pense que dans les grandes villes, un gamin sur deux en prend tous les samedis, tu vois, honnêtement. Et donc ça sert à rien de l'interdire. Par contre, faut le contrôler. Il y a vraiment de la merde dedans, tu vois. Il y a des types qui te mettent de l'année. Tu vois, la kétamine, c'est un anesthésiant pour cheval.
Ouais.
Et c'est un truc que tu décolles. Et je peux te dire que je suis encore allé en festival techno sobre. J'y suis allé sobre, tu vois, sans boire une goutte d'alcool, sans prendre la moindre bière, mais juste parce que j'aime la musique. Et puis que maintenant, je fais très attention parce que je suis quand même très sensible à toute forme d'addiction. Et d'ailleurs, je suis complètement accro au sport et je suis complètement accro à l'adrénaline, tu vois. Je l'avoue. Tu vois, j'ai été surpris du nombre de gamins qui ont 20 ans et qui se prennent des shoots de kéta plusieurs fois dans la soirée. Et la kéta, c'est la drogue du loup de Wall Street. Quand on le voit baver sur le sol, c'est ça qui prend. qui sort de sa bagnole là, et qu'il est complètement paralysé. Bon, bah ça, c'est après 5-6 rails de kétamine, je pense qu'il doit être le mec. Moi, je suis jamais monté jusque-là, mais pas très loin, tu vois. Et ben, t'as des gamins de 18-20 ans qui prennent la même dose, et t'en as beaucoup, tu vois. Et à 18 ou 20 ans, ça te défonce. Bien, t'as pas terminé ta croissance. Ton cerveau, il est encore en train de grossir. Voilà, bon. Excuse-moi, j'ai complètement oublié ta question.
Non, mais c'est pas grave, parce qu'on va revenir sur le sport, parce que maintenant, tu dis que t'es drogué de sport. Est-ce que c'est une meilleure drogue, en fait? Enfin, si, soyons honnêtes. Mais pour arriver à gérer, parce que t'as différentes activités et autres, tu dis que tu fais du sport tous les jours. C'est ça, tu t'entraînes tous les jours? Tu fais quoi, à peu près, comme sport, en volume?
1 heure par jour. Soit je vais aller courir 1 heure, soit je vais aller faire 1 heure de muscu, soit je vais aller nager 1 heure. Mais 1 heure.
C'est quoi ta règle de vie, j'ai envie de dire, maintenant que tu as vécu ça, tu vois, tu as connu différentes phases dans le sport, etc., dans ce que tu as fait, dans ta vie d'entrepreneur. Tu es entrepreneur toujours maintenant. C'est moins stressant, rassure-moi, ou c'est comment, là, ta vie de podcasteur?
J'adore ma vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé ma mission de vie. Et justement, tu vois, et d'ailleurs, c'est un peu un combat personnel, mais tu vois, aller interviewer des athlètes de haut niveau, c'est parce que je suis sûr que je vais pas tomber face à des accros à la cocaïne en face de moi. Je serais allé interviewer les entrepreneurs parisiens qui lèvent beaucoup d'argent, les résultats auraient été un peu différents. Alors, je dis pas qu'ils sont tous coqués, hein, pas du tout, mais il y en a certains quand même, tu vois.
Enfin, je sais pas si dans le sport de haut niveau maintenant, ils sont quand même plus, ils font vachement plus attention. Parce que quand tu parlais des anciens sportifs, ceux qui avaient fait leur carrière il y a 10-20 ans, tu te rends compte qu'en fait, l'origine de vie était vraiment différente. Enfin, franchement, moi, je me rappelle, quand j'étais webmaster d'un club de foot qui jouait en Ligue 1, mais à l'époque, ils jouaient pas en Ligue 1, ils étaient aux portes du professionnalisme. Les mecs, ils se cachaient derrière les tribunes pour aller fumer leur clope à la fin. Des images qu'on voit d'ailleurs de Michael Jordan dans The Last Dance, on voit fumer le cigare, etc. On voit encore des images de joueurs maintenant, et j'en ai parlé avec... J'ai eu des joueurs qui ont joué en équipe de France, etc.
C'est toujours le cas.
Ouais, et à l'époque, c'était encore pire que ça. Alors maintenant, bon, tu vois quand même les athlètes et tout, ça change un petit peu, mais en plus, ils peuvent pas trop le dire qu'ils font des écarts. Enfin, ils sont vachement surveillés quand même, les mecs, là.
Bah ouais, et puis tu sais, on vit dans un monde avec les réseaux sociaux où on peut les prendre en photo à n'importe quel moment et tout, donc ça cadre énormément, tu vois. Il y en a beaucoup qui se disent, bon bah, vu que je suis observé tout le temps, ça vaut pas le coup que je fasse des conneries, parce que en fait ça m'angoisse de faire des conneries, mais t'en as toujours autant qui font des conneries, c'est juste qu'ils se cachent, ils redoublent d'efforts pour se cacher, rares sont ceux qui assument.
Donc alors, pour revenir maintenant justement sur ton... C'est moins stressant, c'est mieux, tu as trouvé ta mission de vie. Mais alors, ton rythme de vie, donc tu t'entraînes une fois par jour, tu as dit environ 1 heure. Comment tu as trouvé ton équilibre? Tu es toujours, parce qu'à une époque, tu avais une chaîne sur les compléments alimentaires. C'est vraiment à cette époque-là où tu as commencé à t'intéresser là, à cette petite cuisine, j'ai envie de dire cette petite cuisine, tu vois, parce que c'est l'image de la drogue que j'ai, moi, avec ces petites cuisines. Tu te dis, hop, comment tu fais ça? C'est à ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser vraiment aux compléments alimentaires, micronutrition, que tu t'es dit, tiens, je vais en parler, je vais partager mes découvertes, ou c'est pas au même moment?
Ouais, c'est exactement ça, si tu veux. Je me remets un peu en question, je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pendant 1 an, j'ai fait vraiment des conneries, vraiment. Je me remets au sport, et je me dis, à ce moment-là, par contre, j'ai appris un truc, c'est qu'effectivement, la micronutrition, c'est hyper intéressant. J'avais cette conviction à l'époque, effectivement, que le monde était en train de changer, que les aliments étaient de moins en moins minéralisés, et qu'il fallait absolument que les gens se complémentent, tu vois. C'était ce que je pensais, tu vois. Et c'est ce que je voyais c'est ce que je lisais. Alors après, j'avais sûrement des lectures très orientées, tu vois. Tu sais, comme tous, on essaye de s'auto-convaincre que ce qu'on est en train de chercher et ce qu'on pense se valide. Mais à ce moment-là, ouais, je me dis, tiens, déjà en parler, ça va être un moyen de vaincre mes propres démons, tu vois, faut être honnête. Tu vois, c'est comme ce bouquin, merde, comment il s'appelle, mais le bouquin, tu vois, pour arrêter de fumer, c'est écrit par un ancien fumeur, je crois qu'il fumait 10 paquets de clopes par jour, enfin, tu vois, ouais, plus t'es, je pense que... Ouais, tu vois. Et puis pareil, tout ce qui... Enfin, il y a souvent, voilà, une quête un peu cachée derrière ça. Mais du coup, ouais, moi, c'est ça mon parcours, c'est que je me dis, tiens, c'est hyper intéressant ces informations-là. Je fais du sport, j'ai envie de transposer ce que j'ai appris dans le monde un petit peu de la nuit, le transmettre dans le sport. Et je me dis, tiens, en parlant, ça va permettre à d'autres sportifs de s'y intéresser. On essaye de monter une marque, tu vois. On crée énormément de contenu par rapport à ça parce qu'on se met à avec mon associé en fait à partager toutes les connaissances qu'on acquiert. Et on se régale en fait, on se régale parce que tous les jours on apprend, tous les jours on repartage. Il y a 7-8 ans, donc il y avait encore très peu de, tu vois, de chaînes YouTube sur le sujet, il y avait très peu de moins de blogs aussi sur le sujet, donc on aimait bien prendre un ton un peu décalé et surtout pas rentrer dans le syndrome d'Optissimo, tu vois. Et puis c'est cool, et puis on fait nos premiers euros sur internet aussi, on apprend d'une manière différente, parce qu'avant on était dans le service avec ce même associé, mais là on arrive à vraiment avoir des sources de revenus complètement automatiques et tout, et on se dit waouh, c'est génial quoi. Donc c'était une aventure humaine et professionnelle hyper hyper excitante quoi.
Mais comment tu faisais pour tester, enfin tu testais les produits, tu faisais quoi en fait?
Ouais, on testait tout et on lisait surtout beaucoup d'études américaines. Beaucoup d'études américaines sur le sujet et d'ailleurs le moment où on arrête, tu vois, c'est le moment où on comprend un peu le jeu des lobbies et on se rend compte que toutes les études, enfin que beaucoup beaucoup d'études sont pipées et que c'est extrêmement dur d'avoir des études 100% objectives, et que même des études parfaitement objectives justement ne tiennent pas compte de tous les critères, tu vois. C'est hyper dur aujourd'hui de sur l'être humain qui est un être holistique, qui est un être psychologique, on est des êtres irrationnels, victimes de nos émotions, et que bah tu vois, tu peux me faire prendre n'importe quel complément, mais que si je suis en dépression à un instant T, avec n'importe quel complément, j'irai pas mieux. Hein. Enfin, tu vois, et ça sera de pire en pire. Donc, la première chose à soigner, c'est son cerveau, et je le pense aujourd'hui, et que la première chose à aller chercher, c'est le bonheur. Et puis après, effectivement, aller optimiser la nutrition, c'est de l'optimisation. Voilà, selon moi.
Mais tu n'avais pas d'interaction entre les produits, parce que si tu testes les produits, je ne sais pas combien de temps vous en testez, etc. Mais pour en parler, parce qu'il y a toujours de l'actualité, les marques, alors surtout maintenant, mais il y a des marques en sortant pagaille, il y a différents produits, il y a les polémiques sur tel truc. Mais pour tester, tu ne pouvais pas vraiment tester dans la durée. Enfin, tu faisais comment en fait?
Bah, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Tu vas tester pendant un mois ou deux mois. Moi, ce qui avait effectivement à ce moment-là, ce qui a bien marché sur moi, je peux te le dire, il y avait aussi le collagène sur les articulations. Quand tu fais notamment de la musculation, des sports de force, ça, il y en a quand même beaucoup, beaucoup aussi, tu vois, et j'étais pas le seul à le dire, de bodybuilders ou de pratiquants de musculation, de rugbyman aussi, qui te disent que bah, sur la longévité de leurs articulations, le collagène est hyper important. Ça revient quand même super souvent. Pareil pour tout ce qui est oméga 3 aussi. Et après sur le stress. Après, est-ce que tu peux tester la qualité de tous les produits? Non. Voilà. Donc t'essayes de prendre des produits français, tu vois, ou au moins validés avec des normes françaises. Je pense la base. Vraiment regarder, parce que les normes en Chine et les normes en Pologne, c'est pas du tout les mêmes que sur notre sol. Donc nous, on bossait uniquement avec des laboratoires français. Et puis à partir de là, tu dis ce qu'il y a dedans, t'essayes de te dire ok, bah si c'est pas fait pour moi, c'est fait pour qui, tu vois, et t'essayes de parler au nom de ces gens-là, et donc tu vas pas survendre certains produits, tu parles de toi, ta méthode de consommation, tu vois. Là je vais parler des substituts de repas, tu vois, parce que nous c'est quelque chose qui, les annonceurs venaient beaucoup nous voir, enfin ces annonceurs-là, et écoute, moi j'ai trouvé le concept hyper intéressant et pratique, et puis en fait une fois de temps en temps, ça allait pas me faire de mal, tu vois. C'est des produits à base de soja, voilà. Il y a peut-être des gens qui vont sauter au plafond en disant waouh, ouais, le soja, les substituts de repas, c'est pas bon. Bon, bah si t'en prends une fois par semaine, c'est mieux qu'un sandwich triangle ou t'allais manger au McDo, tu vois. Moi, ça convenait à mon rythme de vie où je bossais beaucoup, et l'alimentation liquide, ça commençait à me parler, parce que c'est vrai que ça, pour le coup, je suis quelqu'un qui avait souvent j'ai souvent des pics de glycémie importants avec des pics d'insuline et derrière je paye le contre-coup fort. Et du coup bah tu vois souvent je sais qu'avec ces substituts de repas, je les avais pas, tu vois, typiquement. Et je sais que la digestion était très facile. Donc voilà, moi ça m'intéressait et c'est comme ça que je testais, tu vois, avec aussi beaucoup de ressenti, beaucoup de transparence et pas la prétention d'être un énorme expert de la nutrition. Par contre, beaucoup d'expérience sur soi, tu vois. Voilà.
Mais bon, tu vois, les repas liquides, j'ai testé aussi. À une époque, j'en ai même dit du bien sur mon site. J'ai même fait l'affiliation avec l'une des marques dont le fondateur est très connu et qu'on retrouve maintenant désormais partout. Je me suis fait allumer, je ne sais pas combien de fois sur ces trucs-là. Je n'en consomme plus, mais je me suis fait vraiment, vraiment allumer. Et des fois, tu sais, je l'ai même mis en auto-publication sur mes réseaux sociaux. Ça se republie tous les... genre une fois par mois, tu vois. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit « Mais c'est pas possible, ce truc-là et tout. » Alors moi, j'avais expliqué un truc, c'est qu'à l'époque, c'est ce qui m'avait permis, dans certaines phases de ma vie, d'avoir une alimentation qui était un poil plus contrôlée. Quand j'avais pas le temps, mais vraiment pas le temps, de manger un truc équilibré, notamment parce qu'à une époque, je faisais des cours à la fac et j'étais capable de faire 12 heures de cours dans une fac et à midi, j'avais pas de pause. Donc, je prenais ma bouteille, je m'enfilais ça et c'est vrai que, bon, maintenant, avec ma vision de l'alimentation, etc., et c'est ça aussi qui est un point qui est... On change, en fait, ce que je veux dire. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, tu pourrais... Par rapport aux produits, comment tu testais les choses, comment tu faisais. Est-ce que maintenant, finalement, tu es resté aussi convaincu sous ces produits micronutrition? Ou est-ce que finalement, tu t'en as un peu revu un peu ta vision des choses?
Je pense qu'à l'époque, ouais, j'étais beaucoup plus extrême, ça c'est sûr. Et j'ai aussi... je me suis constaté effectivement que l'importance du bien-être psychologique, tu vois, et que on n'est pas des machines de guerre. Et effectivement, après, je pense que tu vois, si tu veux hyper bien savoir ce qu'il faut comme régime alimentaire, savoir exactement comment te complémenter et tout, il faut te suivre avec des prises de sang. Tu vois, et de contrôler de manière régulière. Et c'est pas tous les trimestres, hein. C'est presque toutes les semaines, tu vois, aller faire des prises de sang et contrôler différents taux. Et je pense que ça, c'est le seul moyen de savoir si ce que tu fais, ça marche. Et donc aujourd'hui, n'ayant pas beaucoup fait ça, tu vois, eh ben, je serais incapable de t'affirmer avec autant de conviction que j'ai pu le faire sur YouTube, de te dire qu'il faut absolument, tu vois, prendre tel ou tel produit, tu vois, ça c'est sûr. Après, moi je peux le dire, j'en prends. Voilà, je prends aujourd'hui des multivitamines, notamment pour le zinc, le magnésium, comme je le disais. La vitamine D aussi, ça m'intéresse beaucoup. Des oméga-3, parce que voilà, c'est hyper important. Et je vais me mettre au collagène. Voilà, je le dis, et c'est ce que je fais moi. Et c'est à la fois, c'est un croisement d'une conviction personnelle et de ce que j'ai pu ressentir. Mais effectivement, je mets de l'eau dans mon vin, parce que des fois je regarde mes chaînes YouTube et je suis en train de parler de certains produits en te disant que c'est miraculeux. Et je me dis, bon, j'étais un peu jeune. J'avais en fait l'enthousiasme du débutant, tu sais. Cette fameuse courbe de Gauss sur l'apprentissage. Tiens, je viens de découvrir un truc et j'ai l'impression d'être hyper sachant sur le truc. Il y a un peu de ça. Je devrais peut-être effectivement mettre une petite note sur les vidéos YouTube, tu vois. Mais c'est tout là-dessus, tu vois. Même, je pense que toi aussi, des fois, tu devrais écouter tes contenus et tu te dis, waouh, je pensais ça. Maintenant, je suis un peu plus modéré avec la sagesse.
Oui, je crois que je suis plus modéré avec la sagesse. En tout cas, qu'il y a une vision qui a évolué, avec notamment sur un élément, c'est la vision de l'ultra transformé. En fait, c'est-à-dire que à force de parler avec des spécialistes de l'alimentation, des chercheurs, de se renseigner sur le truc, moi, c'est vrai que ce monde des trucs ultra transformés, des pilules, de tout ce qui est du réductionnisme alimentaire aussi, d'aller chercher en disant tiens, je prends un tel bout d'aliment. Ça m'énerve, en fait, tu vois, c'est un truc qui n'est plus en moi. Et j'ai eu une discussion sur Twitter qui était intéressante avec quelqu'un qui disait qu'en fait, il était devenu végétarien, tu vois, et tout. Et il disait, bah, quand tu manges plus de viande, tu es végétarien, on te regarde de travers. Et moi, je lui dis, mais en fait, c'est pas toi qui manges plus de viande que je regardais de travers, c'est les produits ultra transformés que tu as dans ton frigo pour faire ressembler un truc végétal, que ça devienne un steak, et que tu as 21 produits dans un faux steak. alors qu'un bout de viande, tu as un produit, tu vois. Et je lui dis, à un moment donné, je me demande à quel point, tu vois, la chimie, et ça peut être dans les compléments, ça peut être dans l'aliment, ça peut être dans plein de trucs, n'est pas en train, tu vois, de changer la relation aux gens, tu vois. Et c'est ça, moi, mon truc préféré, c'est de prendre un truc, des légumes, de les couper, et puis voilà. Puis après, est-ce que j'ai des manques? Ça, c'est sûr, parce qu'on en a parlé, on a fait des épisodes avec Sébastien Diefenbrunn, c'est un sujet dont on va beaucoup parler. Mais moi, c'est ça, ma vision. Mais c'est vrai qu'à une époque, par contre, j'étais comme toi, tu vois, dans l'optimisation. Je me disais, tiens, allez, si je pouvais prendre ça en quelques secondes, je le faisais. J'avais plein de marques. Alors moi, j'avais un bloc de mecs, tu vois, chacun son truc. Hein. Moi, il y avait aussi les anti-cernes qui marchaient bien dans mes tests. J'ai fait tout un tas de tests de produits comme ça. Mais j'avais aussi les compléments, tu vois. Alors, j'ai les cocktails de compléments, etc. Ça, je peux te garantir, j'en prends, mais quasiment plus. Mais j'ai testé le collagène aussi, parce qu'on m'a dit quand même, quand j'ai mes douleurs de hernie sciatique, j'ai dit quand même, collagène, faut que je teste. Vitamine D. On fera un épisode sur la vitamine D un jour parce que franchement, c'est un sujet que j'ai. Tout le monde doit prendre de la vitamine D. Non, mais en plus, tout le monde doit prendre de la vitamine D. J'ai même appris l'autre jour, mon médecin, qu'ils ont augmenté encore demandé pour les enfants qu'on prolonge le temps de vitamine D, les personnes âgées d'en prendre. Moi, je suis une petite personne âgée, tu sais, mes 46 ans par rapport à toi. Donc, j'en prends tout le temps. Mais c'est vrai. Et puis, pour l'immunité, par rapport au virus, le premier truc qu'on aurait dû faire prendre aux gens, c'est la vitamine D. Mais bon, bref, c'est un autre passage. Mais c'est vrai que. C'est la vérité des choses. Il faut dire des trucs. Et ce qui est drôle, en fait, c'est de dire que dans ton parcours, donc, tu as testé, alors, tu as même eu des périodes très junkie et compagnie. Mais maintenant, t'es papa, t'as des enfants?
Ouais, j'en ai deux.
Tu leur dis quoi dans leur assiette, tu vois, avec ce que t'as vécu entre le sport, etc. Tu te dis, qu'est-ce que tu leur mets dans leur assiette?
Oula, c'est un sujet très compliqué. J'essaye au maximum, si tu veux, de mettre le plus de légumes possible. Et si tu veux, là, j'en ai un qui va avoir 3 ans et qui est dans la pleine période du non, tu vois, et qui commence, alors j'aime pas le mot des caprices, mais tu vois, à s'affirmer justement par le refus et uniquement sur les plaisirs très court terme. Donc c'est pas facile, mais mon objectif, c'est maximum de légumes, voilà.
Et quand tu vois parce que, alors, ce qu'ils mangent, moi, à la cantine, c'est terrible. Je sais pas si ce gamin mange à la cantine, mais alors ma fille à la cantine, quand je vois les plats, etc., je me dis, il y a une éducation qui est complète, etc., à faire. Mais quand toi, tu vois ton parcours, tu vois, et tout, les micronutriments, tu vois ce que tu as fait en sport, etc., bon, j'imagine que tu as envie que tes enfants fassent du sport plus tard, etc., tu vois.
Bien sûr. Ouais. Ils ont.
Et tu leur donneras quoi comme conseil, en fait? Alors, c'est compliqué, mais tu vois, visualise-toi dans. Je sais pas, dans 10 ans, tu vois, ton gamin, il s'inscrit, il fait du rugby, je sais pas quoi, tu vois. Tu lui diras quoi, en fait? Enfin, c'est difficile parce qu'on sait pas ce qui va exister. Mais d'après toi, il existera quoi dans 10-15 ans? Et par rapport à ton parcours, tu pourrais lui dire quoi?
Par rapport à la nutrition, tu veux dire, ou par rapport,
ouais, par rapport à la nutrition?
Mais je pense que ça sera toujours la même chose, hein. C'est toujours manger énormément de légumes, quoi. Je pense, ouais, que c'est vraiment. Je pense que ça, c'est la base. Et si je pense que déjà mes enfants ont bien intégré ça, je serais hyper content.
Ouais.
Et peut-être, ouais, effectivement, regarder, ouais, effectivement, sur la vitamine D. Je pense que t'as entièrement raison là-dessus et je te rejoins tout à fait. Mais c'est pas facile, tu vois. J'ai du mal à me projeter, sachant que là aujourd'hui, ils mangent plutôt bien les deux et qu'ils sont tous les deux enclins, effectivement, à manger quand même pas mal de, à essayer d'avoir, enfin, de suivre en tout cas l'alimentation qu'on leur propose, qui est avec assez peu de protéines animales et beaucoup de légumes de manière générale. Ouais, j'aurais du mal à te répondre, pour être tout à fait sincère.
Non, mais c'est très compliqué parce que, en fait, j'ai eu il n'y a pas longtemps un invité qui est. Oh, lui, je crois qu'il doit être végétarien, tu vois, à peu près. Et je lui disais, mais c'est quoi la règle? Il me dit, mes gamins peuvent tout manger du moment qu'ils mangent un fruit et un légume dans la journée. Je lui dis, c'est ça la règle? Il dit, ouais, il peut boire. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on est obligé de faire des compromis. Parce que c'est vrai que quand tu es adulte, tu as fait des tests, etc. Mais après, on a des compromis. Ma fille, en ce moment, pour lui faire manger des légumes, elle connaît tous les légumes. La marchande de légumes était super fière d'avoir une petite gamine qui vient devant, qui dit, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis le jour, j'ai dit à ma marchande de légumes, j'ai dit, maintenant, elle veut bien les acheter, mais elle veut plus les manger. Donc, tu as tout un tas de compromis qui existent. Non, mais c'est vrai. Et t'as même moi, ma fille, elle mange très peu de sucre, mais il y a des gamins qui mangent beaucoup de sucre, etc. Donc, tu as tout un tas de compromis qui sont. Mais c'est vrai que sur cette partie alimentation, moi, à force de réfléchir, d'avoir fait des tests, etc., il y a un moment donné, tu vois, c'est est-ce que tu as réussi à te forger une conviction, mis à part ce manger légumes, qui, à mon avis, tu vois, moi, c'est le truc aussi qu'on lui répète le plus souvent, manger légumes, etc. Mais tu as une conviction, tu dis là, maintenant, avec ce que j'ai testé, avec ce que j'ai vu, avec mon parcours sportif, avec ce qui a marché quand tu fais de la muscu, du crossfit, de la récupération, etc. T'es capable d'avoir une philosophie d'alimentation, de nutrition, où finalement, tu sens que tu pourras avoir des trucs qui peuvent changer assez radicalement, régulièrement.
Ouais, ok. Je comprends mieux ta question. En fait, par le biais des enfants, par l'angle des enfants, c'est quelles sont mes convictions. Effectivement, je pense si on devait les résumer, je pense que j'en ai distillé pas mal de petites bribes tout au long de la conversation. C'est effectivement essayer de faire le plein de minéraux parce qu'on en manque de manière générale, minéraux et vitamines. Ça, très bonne hydratation. Je pense que les 2 litres d'eau par jour, c'est un truc aussi. Faut se forcer parce que on oublie que notre corps, c'est 80% d'eau et que par conséquent, faut la renouveler et c'est beaucoup de mollets. Enfin, et qu'il faut que ça passe par l'hydratation et qu'aussi le système urinaire, hein, et c'est notre déchetterie. C'est comme ça qu'on rejette énormément de déchets. Donc, si tu bois pas beaucoup, tu rejettes peu les déchets que crée ton organisme. Et Dieu sait qu'il en crée. Voilà. Et après, si j'ai d'autres convictions quand même, c'est sur l'alimentation acide et basifiante. Je pense que quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte. Et pour avoir interviewé pas mal d'athlètes, et tu vois encore pour ce week-end avoir été à une compétition internationale de perche avec des athlètes de haut niveau professionnels, tu vois quand même que le gamin de 18 ans qui a un record en junior, qui se commande le McDo directement après la compétition, même la veille de la compète, le Renaud Lavillenie, il réagit pas pareil, tu vois, du haut de ses 35 ans, tu vois. Et s'il y a un truc quand même en vieillissant, je trouve, c'est que on est plus enclin aux tendinites, on est plus enclin aux petites douleurs musculaires et tout, et que une alimentation hyper acide et par acidifiante et par là effectivement avec beaucoup de protéines animales et beaucoup de lactose, je suis convaincu que c'est pas bon. Tu vois, ça, et c'est pour ça on a dit beaucoup de légumes parce qu'en fait effectivement c'est basifiant et du coup tu peux ça te permet de contrebalancer une grosse dose d'acide et ça permet un peu si tu veux d'avoir des écarts quoi tu vois plutôt que de tout contrôler donc je crois beaucoup aussi à l'alimentation acide basse tu vois effectivement et regarder éviter d'avoir des surcharges d'acidité par moment et notamment avant je pense que c'est encore plus vrai pour les pratiquants d'endurance et ceux qui vont faire de l'ultra. S'ils ont un corps très acide, ça va leur jouer des tours. Après, tu vois des mecs comme Alexandre Boucher, casquette verte là, qui était un énorme fumeur, donc hyper acidifiant pour le corps, qui allait se picoler quelques pintes après chaque ultra et les samedis soirs. Il commence, je pense, à avoir des petits signes, tu vois, mais son corps, il encaisse parfaitement, quoi. Donc après, chacun comme il est, il y a des machines de guerre, d'autres qui sont un peu plus fragiles, il faut accepter, quoi.
Ouais, bon,
Mais
casquette verte, c'est la rockstar un peu. Mais je devrais l'avoir dans
ouais.
pas longtemps.
Oui, il faut écouter.
On a repoussé un petit peu les trucs pour l'enregistrement, mais je l'aurai au printemps normalement sur Kilomètre 42, je le dis, parce que ça fait un bout de temps, il y a des discussions, il y a des échanges, etc. Et chercher certains projets parce que là, il a tourné autour d'un terrain du Parc des Princes et il a fait 100 bornes autour d'un terrain de foot. Et moi, on me traite de fou quand je suis à 24 heures à Hamster, mais alors là, il y a des trucs, hein, zizit. Mais c'est vrai que. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un exemple? C'est un discours, parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui regardent un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils font, etc. Mais pour moi, c'est un peu le biais du survivant, en fait. C'est-à-dire que lui, ça marche. pour combien il y en a qui marchent. Et c'est le problème, en fait, de beaucoup des athlètes et du système de formation des athlètes aussi, parce que c'est ce que j'allais te dire, tu vois, dans les sportifs de haut niveau, que tu reçois, parce que tu reçois des gens qui ont réussi, en fait, et tu en as reçu... Combien tu as eu d'invités au total?
182, 183 demain.
Ouais, donc 183, etc., autres... Finalement, on voit pas aussi ceux qui ont pas réussi parce que il y a pu y avoir justement ces histoires d'alimentation, tu vois, qu'on peut dire il y a des jeunes en alimentation, et d'ailleurs en suralimentation ou en mauvaise alimentation ou en sous-alimentation. Moi, j'ai eu au club une jeune fille qui a arrêté la course parce qu'elle était en syndrome d'aménorrhée, tu vois, de perte, etc. Elle était très très maigre, etc. Et au bout d'un moment, son corps n'a plus tenu, alors que potentiellement, tu peux te dire, elle a été à un niveau de championne de France, etc., tu vois, dans sa discipline, et qu'à un moment donné, ça tenait plus. Donc, on ne le voit pas trop, ça, en fait, tu vois, c'est compliqué. Et d'arriver, quand tu regardes tout ce domaine-là, te dire, oh, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche, il y a ces documentaires-là et tout, il y en a plein, et puis après, on peut te dire, il faut faire ça et tout. C'est pour ça que je te demandais si tu avais réussi à te faire une philosophie, tu vois, une conviction. Je suis assez d'accord avec cette histoire de manger des légumes. Franchement, j'ai le sentiment que manger des légumes et manger des protéines, j'allais dire manger des haricots, tu sais, mais manger des protéines végétales, etc., ça reste en fait un petit peu l'espèce de grand truc qui finalement, je me demande si c'est pas ce qui va s'imposer, même si moi, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais gamin, quand on me disait mange des légumes, je regardais mes parents et franchement, je disais, les vieux, hein, c'est franchement. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein.
Et pourtant, et je pense que ouais, on a une très très mauvaise éducation par rapport à ça, parce que tu vois, moi, je vais très souvent dans des restaurants végétaliens ou végétariens. Mmh. J'adore, justement, parce que ça refait complètement mon éducation par rapport à la cuisine végétale, quoi. Et ouais. je mange trop bien, tu vois. Et tu vas justement moi j'ai mes petites adresses. Si jamais tu passes à Paris, je t'envoie des petites adresses, mais tu manges des plats végétaliens, mais tu te prends une avalanche de saveurs. Je peux te dire qu'à côté, t'as pas envie d'une entrecôte. Vraiment pas, tu vois. Et c'est pourquoi? Parce que quand on est jeune, effectivement, c'est les légumes surgelés, les légumes vapeur, avec zéro épice, pas du tout cuisiné. Et du coup, bah, forcément, ça nous donne pas envie. Et tu vois, et nous, sur le blog, justement, dont on parlait tout à l'heure quand on écrivait sur l'alimentation, nous, un des articles et un des produits sur lesquels on a fait le plus de chiffre d'affaires, c'était 100 recettes sportives saines et rapides. Mmh. Et végétaliennes, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est 100 recettes véganes rapides et sportives. Mmh. Et bien, ça a cartonné, en fait. Et on en a vendu des milliers de e-books, tu vois. Si vous voulez aller en acheter, allez-y, il est très cool. Mais, et en fait, c'est parce que tu manges hyper bien, mais il suffit d'apprendre à le faire. Parce qu'on, c'est pas ce qu'on t'apprend dans la brasserie, tu vois. C'est plus simple de mettre un bout de steak sur dans la poêle sans réfléchir, parce que t'as pas besoin de cuisiner.
Eh oui, on est fainéants. On admire les gens qui sont pas fainéants, mais nous-mêmes, des fois, on est un petit peu fainéants sur les choses. Et je l'ai dit, parce que alors, j'ai fait une newsletter ce week-end où j'ai expliqué exactement ce truc-là. On dit, des conneries, des fois, on fait par fainéantise. Mais bref, c'est un autre sujet qu'on va pas aborder là, parce que sinon, on est reparti pour une heure. En tout cas, écoute, c'était un plaisir de t'avoir, parce que je pense que ça décomplexe beaucoup de gens, en fait, l'histoire. C'est le but de cette discussion aussi, c'est de montrer que chacun fait des essais, que oui, il y a des petites pilules qui tentent, il y a les poudres, il y a les raccourcis qu'on essaie de prendre. On fait des essais, que dans sa vie aussi, entre les sports, il y a des variantes, il y a ce qu'on peut faire et tout. Ce que je vais te laisser faire pour terminer, c'est juste nous rappeler, en fait, où est-ce qu'on peut suivre et t'écouter.
Eh bien, écoute, c'est sur toutes les plateformes audio. Il suffit de taper extraterrien, tout attaché, comme ça se prononce. Et puis, sur Instagram, c'est la même chose. C'est extraterrien.podcast, pour le coup, pour les gens qui veulent suivre un petit peu tout ça. Et sinon, j'écris beaucoup sur LinkedIn aussi, Barthélémy Fent, pour les gens. Alors là, je raconte plus mes points de vue sur le business, sur qu'est-ce que c'est qu'être un créateur de contenu. Et je passe des petites gueulantes. J'essaye de partager quelques points de vue un peu tranchés. Ouais, c'est le réseau sur lequel je m'amuse le plus, tu vois, en ce moment. Je me sens que j'ai beaucoup de liberté de parole, donc j'aime bien écrire. Donc je recommande aussi.
Je mettrai tous les liens en note de l'épisode, de toute façon dans la description, je mettrai tous les liens, tout le monde pourra cliquer, on va t'identifier dans les publications, etc. Comme ça, on te retrouvera facilement. Et puis, écoutez, moi sur ce, hein, on va aller voir, je te laisse prendre tes petits, tu m'as dit quoi, collagène, hein, ça va, je vais te laisser prendre ton collagène. Non, Alors, tu vois, je serais curieux de savoir, en fait, mais je te suivrai sur LinkedIn, voir si tu en parles un jour. Moi, j'ai fait un mois de collagène. Je suis incapable de te dire si c'est ça qui m'a fait du bien ou pas. Tout ce que je sais, c'est que ça ne m'a pas fait de mal, d'une part, mais qu'après, ça allait mieux. Mais comme en même temps, j'ai mis le bureau debout, que j'ai augmenté ma dose de course à pied, que j'ai fait ça, je suis incapable de savoir. Et c'est aussi un petit peu, la logique. Hein. Des fois, il y a des trucs, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, je serais curieux de savoir ton avis. Toi qui as testé plein de produits, de savoir ce que tu en penses. Oui. Si tu arrives à mesurer, parce que toi, tu mesures en plus avec un tableau et tout. Tu avais fait ces mesures-là, tu étais un chef. Moi, je n'ai pas le côté ingénieur comme ça. Je n'ai pas ce côté-là, chiffres. Mais en tout cas, je suivrai ça avec attention. Et bien entendu, nous, on se retrouvera aussi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je ne vous dis pas l'invité, je garde ça pour moi, c'est mon secret. Vous verrez ça dans les derniers jours, juste avant la publication. Et je vous souhaite à tous de bien bouger, bien manger. On reste quand même dans le naturel au maximum et on fait attention à notre équilibre et manger suffisamment, on l'a dit, pour arriver à éviter de tomber dans l'épuisement, à faire trop de sport. Parce que ça, on a eu trop d'invités sur ce sujet-là pour ne pas en parler. Ciao, ciao.
Salut Bertrand.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.